Bonjour à tous, bienvenue à CIBL Reçoit pour un Québec apprenant. Ici Guylaine Heureux à la barre de cette émission produite par CIBL en collaboration avec l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. C'est la première émission de l'année 2015 au menu cette semaine, mais en fait ce mois-ci. Un regard sur les actualités ayant retenu l'attention de nos collaboratrices, Emmanuelle Béguineau. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour Guylaine.
Bienvenue à cette nouvelle année avec les enjeux toujours aussi importants en éducation. Oui, nous aurons une entrevue avec Pierre Morissette sur l'avenir des corporations de développement économique communautaire. Une entrevue avec Daniel Barry sur les objectifs en éducation post-2015. On va vous démystifier ça. Et un reportage sur la pertinence des centres d'éducation populaire. Pour un Québec apprenant, nous vous souhaitons vous garder informés toute la prochaine heure avec nous. Alors, les actualités ayant retenu votre attention, Emmanuelle Béguineau, qui, je le rappelle, travaille à l'ICEA, et qui m'épaule dans toute la préparation de cette émission. Quelles étaient ces actualités? Je sais qu'il y avait, entre autres, l'annonce de la journée d'études en formation générale des adultes.
Oui, effectivement, qui va se tenir le 27 février prochain. La formation générale des adultes, c'est un secteur de l'éducation qui est extrêmement important, notamment, évidemment, pour les adultes qui retournent aux études. Et les centres d'éducation des adultes, qui sont les établissements qui sont responsables d'offrir justement cette formation, qu'on a formation générale des adultes, l'abréviation CFGA, ils font face à des défis majeurs, parmi lesquels la persévérance, la réussite éducative, la diplomation. Il faut aussi s'adapter aux besoins d'une population étudiante de plus en plus diversifiée. Et il y a le problème aussi du soutien professionnel et la précarisation des enseignantes et des enseignants. Dans les prochains mois, les compressions budgétaires vont peser lourdement, justement, sur le réseau d'éducation, dont le secteur de la FGA. Et en même temps, le gouvernement a relancé une démarche pour actualiser la politique gouvernementale d'éducation des adultes et de formation continue, qui comporte une orientation sur la formation générale des adultes. Alors, le 27 février prochain, il y a une importante journée d'échange et de débat sur la formation générale des adultes, et qui est organisée par le Centre d'études et de recherche sur les transitions et l'apprentissage, le Centre interdisciplinaire de recherche et développement sur l'éducation permanente, le groupe de recherche immigration, équité et scolarisation et l'ICEA. Et en fait, cet échange, ça a pour objectif de partager des constats sur la formation des générales des adultes et de communiquer au ministre de l'Éducation, justement, des constats et des pistes qui vont pouvoir peut-être s'inscrire donc dans la politique, dans la nouvelle politique gouvernementale d'éducation des adultes.
Beaucoup d'enjeux. Il y a aussi l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie qui lance un observatoire mondial en reconnaissance, validation et accréditation de l'apprentissage non formel et informel. Emmanuel?
Oui, oui. Ben, l'apprentissage non formel et informel, pour mettre un petit peu au courant les gens, c'est l'apprentissage qui se fait en centre, en dehors des centres d'éducation, des établissements d'enseignement, en fait.
Par exemple, en milieu de travail?
Ça peut être en milieu de travail, ça peut être en milieu communautaire, ça peut être dans un centre d'éducation populaire, justement, puisqu'on va en parler tout à l'heure. Et donc, effectivement, c'est une ressource de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage. C'est une nouvelle ressource en ligne qui recense les tendances en matière de reconnaissance France, de validation et d'accréditation pour tout apprentissage non formel et informel. En fait, c'est une plateforme qui permet aux personnes qui s'y intéressent d'échanger leurs réflexions et leurs pratiques à ce sujet. Et à ce jour, on a à peu près 11 profils de pays et 27 études de cas. Et ça va se développer davantage donc dans les prochaines semaines et prochains mois.
Ah, intéressant, c'est oui. À suivre alors.
Oui, tout à fait.
À explorer. Et à suivre. Il y avait également dans les actualités qui ont retenu votre attention pour ce mois-ci, nous sommes en route pour le 3e rapport mondial sur l'apprentissage et l'éducation des adultes.
Oui, tout à fait. Bon, c'est un petit peu une petite introduction à ce dont vous allez parler avec mon collègue Daniel Barry tout à l'heure. Effectivement, le prochain rapport mondial sur l'apprentissage et l'éducation des adultes, sa publication est programmée pour début 2016 et c'est déjà en préparation. En fait, on va présenter un recensement des avancées dans l'application du cadre d'action de BLM, dont il va parler tout à l'heure aussi Daniel, et ça sera axé sur les bienfaits de l'apprentissage des adultes pour la santé et le bien-être, la société et la communauté, l'emploi et le marché du travail. Et actuellement, en vue de sa rédaction, justement, l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie coopère avec des chercheurs de tous les niveaux, de différentes universités et organisations internationales, dont l'Institut de statistique de l'UNESCO, l'Organisation internationale du travail, l'Organisation de coopération de développement économique et l'Organisation mondiale de la santé. Et cette prochaine réunion d'experts est prévue pour les 11 et 12 juin 2015.
C'est bien. Alors, on le voit, il y a ces enjeux-là, c'est toujours assez criant. L'année 2015 promet d'être assez intéressante et de pouvoir suivre tout ça. Peut-être comme c'est encore un peu le début de l'année et qu'on est peut-être un peu dans l'esprit des résolutions, on peut au moins souhaiter que malgré les contextes d'austérité ou de compression budgétaire un peu partout ou de crise économique parfois dans certains pays, on peut au moins se souhaiter que du côté de l'éducation des adultes, ça prenne une importance plus grande dans la vie des gouvernements et qu'on reçoive un meilleur appui.
L'éducation tout court et puis qu'il y ait une ouverture effectivement de la part de nos politique à l'égard de l'éducation des adultes et de ses bienfaits effectivement dans nos sociétés.
Oui, surtout dans une société où il y a tellement de changements et qu'on doit s'adapter constamment et pour rester compétitif, mais même juste avoir accès à un emploi, il faut toujours être formé de mieux en mieux. Merci Emmanuel d'avoir pu nous livrer quelques actualités à suivre pour garder ça dans notre radar tout au long de l'année 2015, mais avec les dates plus précisément ce que vous nous avez apporté. Et on se permet une transition musicale très courte pour accueillir notre invité, M. Pierre Morissette. À la fin du mois d'octobre 2014, vous vous en souviendrez peut-être, le gouvernement du Québec annonçait que les 120 centres locaux de développement, aussi connus sous l'acronyme de CLD, qui est la structure responsable du soutien aux entreprises créée il y a 15 ans par le Parti québécois de l'époque, seraient appelés à disparaître, jugés trop coûteuses. Cette structure, en fait, jugée trop coûteuse, les budgets investis diminueront et seront absorbés, mais pas tous et pas au complet, par les municipalités et les MRC. La question qui se pose dans un tel contexte, c'est quel est l'avenir des corporations de développement économique communautaire? Pour venir approfondir cette question et nous aider à mieux en comprendre les enjeux, nous accueillons M. Pierre Morissette, président du regroupement économique et sociale du Sud-Ouest, aussi connu sous l'acronyme Réseau. Bonjour, M. Morissette.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation de collaborer à cette émission, de participer à cette émission. Quelle est la différence, déjà, pour comprendre un peu mieux de quoi on parle, entre une corporation de développement économique communautaire, donc l'acronyme CEDEC, et un centre local de développement, un CLD?
Bon, tout d'abord, je dois juste rectifier que je suis directeur général du réseau et non pas président.
Je vous avais peut-être offert une promotion.
Ben
mais
voilà,
vous
mais écoutez,
vous
c'est je vous en remercie beaucoup. Mais bon, la différence entre un CLD et une CEDEC, c'est que dans le fond, les CEDEC existent maintenant depuis presque 30 ans, ont été créés à l'initiative de différentes communautés dévitalisées à Montréal, alors qu'un CLD s'est créé par une politique publique.
Oui, donc les CEDEC précèdent les CLD.
Oui, existaient avant la création des CLD, a même inspiré la création des CLD. Une autre différence, c'est au niveau de la gouvernance. Les CEDEC ont maintenu une gouvernance autonome, diversifiée, inclusive. Donc, il y a des acteurs de la société civile, des syndicats, des groupes communautaires, des entreprises qui composent la gouvernance des CEDEC. Alors que depuis 2003, les CLD sont contrôlés par les MRC et dans le cas de Montréal, les 9 CLD qu'il y a sur l'île de Montréal, donc sont contrôlés par le conseil d'agglomération. C'est le conseil d'agglomération qui nomme les administrateurs et c'est pas le cas à Montréal, mais en région, dans plusieurs cas, les élus s'étaient donnés, s'étaient nommés majoritaires sur les CA de plusieurs CLD. Une autre différence, c'est que la finalité des CEDEC, c'est le développement de toute la communauté et, entre autres, la lutte contre la pauvreté dans des quartiers qui étaient vraiment très dévitalisés, comme le Sud-Ouest, comme Rosemont, Hochelaga-Maisonneuve, enfin, la plupart des quartiers centraux à Montréal qui étaient industriels. Alors que pour les CLD, ben c'est la finalité, c'est l'aide aux entreprises. Donc, on fait les mêmes activités parce que nous, les CEDEC, on a aussi le mandat d'être le centre local de développement pour nos territoires, mais avec une finalité et donc une approche qui est quand même différente. Et une dernière différence, c'est que, et c'est pour ça qu'on est ici pour en parler sur le thème de l'éducation, de la formation, c'est que les CEDEC n'ont pas un seul mandat, c'est-à-dire le seul mandat de développer les entreprises et l'économie, mais font aussi et surtout dans certains cas de l'aide aux personnes sans emploi par la formation, par l'employabilité. Font aussi du développement qu'on pourrait dire de communauté à travers des projets structurants. On pense par exemple au cinéma Beaubien à Rosemont. On pense à tout le travail le long du canal de la Chine ou autour du quartier d'innovation dans le Sud-Ouest. On peut penser aussi bon à d'autres exemples comme les ateliers d'artistes sur le plateau. Bref, on voit que la CEDEC, elle a une vision peut-être plus globale, on appelle ça du développement local intégré ou du développement économique communautaire, et alors que le mandat et l'action des CLD étaient beaucoup plus restreintes, si on veut.
Oui, et donc je comprends que le rôle que jouent les CEDEC dans la communauté, c'est d'être très près des citoyens, d'intervenir sur le terrain, d'être très de toujours se placer à proximité des enjeux de chacune de ces communautés-là, en étant justement découpé par secteur.
Tout à fait. Oui. Et d'ailleurs, les processus de participation qu'ont mis en place les CEDEC pour définir les orientations de développement, les priorités, tout ça, sont quand même très élaborés, si on veut. Alors que souvent, et je ne dis pas que dans les CLD, il n'y en a pas aussi, là, mais c'est peut-être plus, plus restreint là aussi.
OK. Quel bilan doit-on faire, alors, à la fois des CLD et des CEDEC, puisque, comme on l'a bien expliqué, les CEDEC existaient avant. Les CLD ont apporté quand même quelque chose à ça. Est-ce que ces bilans-là peuvent être comparables ou complémentaires?
Bien, certainement, malgré les nuances que j'ai apportées, pour les 120 CLD au Québec, incluant là, les 9 à Montréal, qui ont le mandat CLD, je pense que le bilan est quand même assez positif en ce qui touche l'aide aux entreprises. La CLDQ, l'Association des CLD du Québec, était engagée aussi dans une démarche d'amélioration continue, donc pour aider peut-être les plus petits CLD qui avaient moins de moyens d'augmenter, de s'élever à des standards de qualité là un petit peu plus élevés. On voit actuellement, puis c'est le cas dans plusieurs régions au Québec, que beaucoup d'élus et des membres de ces communautés-là se mobilisent pour maintenir leur CLD, pour garder aussi leur conférence régionale d'élus.
Oui.
Ça doit être parce qu'ils jugent que ça avait un apport positif à quelque part, parce que À Montréal, dans les grandes villes, c'est sûr que il y a toutes sortes de monde qui soutiennent le développement économique. Les entreprises sont peut-être en mesure plus de se payer des services privés, même si, encore une fois, je pense que dans les quartiers comme le Sud-Ouest, dans les quartiers centraux en général, beaucoup de gens ont besoin d'aide parce qu'on veut pas que ça soit juste les gens qui ont des moyens qui puissent démarrer, développer une entreprise. On veut aussi aider des personnes qui sont peut-être moins fortunées à avoir l'accompagnement et les ressources nécessaires pour démarrer une entreprise. Donc, à ce chapitre-là, je pense que autant les CLD que les CEDEC ont fait un bon travail. Comme je le disais tantôt, on fait régulièrement des bilans de notre travail, puis au-delà des chiffres, au-delà des statistiques, au-delà de tout ça, ce qu'on peut observer sur le terrain, c'est que les CEDEC, dans plusieurs quartiers de Montréal, ont réussi à redémarrer la roue du développement, à se redonner des nouvelles pistes aussi de développement. Je citais tantôt des exemples à Rosemont, sur le plateau. En fait, dans tous les milieux, des projets structurants sont soutenus par les CEDEC et permettent finalement aux citoyens de ces milieux-là de s'engager dans la revitalisation et le développement de leur milieu. Et là, on parle pas de tout le travail qui se fait, comme je disais, en aide à l'emploi, aide aux individus. C'est sûr que à travers les collaborations avec Emploi Québec, les CEDEC ont mis en place toutes sortes d'activités pour permettre aux gens d'abord, à partir même de très loin, des gens qui ont des problèmes de lecture, d'écriture, donc d'avoir accès à des services de formation, à des services d'aide à l'employabilité, et avec une approche qui est d'abord centrée sur les besoins et les aspirations de la personne, donc qui peuvent être des approches ou des interventions à plus ou moins long terme, donc jusqu'à temps que la personne ait atteint ses objectifs. Par exemple, quand on fait appel à Emploi Québec, l'objectif, c'est de vous remettre sur le marché du travail le plus vite possible, indépendamment de ce que vous souhaitez comme métier et tout ça. Donc, je pense que les CEDEC, dans ce contexte-là, jouent un rôle beaucoup plus proche des besoins, des aspirations des citoyens et travaillent en collaboration avec les commissions scolaires, avec des organismes en employabilité, avec des organismes en formation. On est partenaire, entre autres, de l'ICEA pour chaque année faire une activité de reconnaissance des personnes en démarche de formation. Quand on est un adulte, avec des enfants, avec une famille, avec des obligations, c'est pas toujours évident de retourner sur les bancs d'école, d'abord terminer un secondaire, après ça apprendre un métier et tout ça. Et il y a pas beaucoup de monde qui reconnaissent la détermination et l'engagement de ces personnes-là pour se sortir de leurs conditions, des fois difficiles. Alors, de faire ça, je pense que c'est encore une façon d'amener les gens à devenir des acteurs du développement dans leur communauté, à contribuer comme citoyens à revitaliser des milieux qui étaient en très, très mauvais état il y a 20, il y a 25 ans. Et juste au réseau, depuis presque 30 ans maintenant, c'est plus de 25 000 personnes qui ont été accompagnées et qui se sont sortis de la pauvreté, finalement, et qui sont devenus des citoyens qui contribuent.
C'est alors considérable.
Ça, c'est ce qui est peut-être... On parle, là, du mandat CLD qui va être coupé, mais dans le fond, comme les CEDEC ont une approche intégrée, pour certaines CEDEC, de perdre les ressources qui viennent avec le mandat CLD, ça pourrait compromettre le travail qu'ils font au niveau de l'employabilité, au niveau de la formation.
Assez pour penser que ça puisse les faire disparaître ou pas?
Écoutez, on n'est pas rendu à cette extrémité-là. Dans certains cas, ça pourrait aller jusque-là. Pour l'instant, on est confiant que dans les discussions qu'on a avec la Ville de Montréal, on va réussir à convaincre la Ville d'abandonner cette idée-là que parce qu'il y a moins de ressources, moins de budget, il faut qu'il y ait moins d'organisation. Nous, on défend le principe du service de proximité, puis on dit que même avec des budgets réduits, on peut faire des choix qui vont nous amener à maintenir une offre de service auprès des entreprises et des entrepreneurs sur une base de proximité. Et peut-être éventuellement, parce que, bon, on sait, les coupures dans les gouvernements, ça va, ça vient. À un moment donné, il y aura des changements, puis il y aura peut-être des nouvelles ressources disponibles. Donc, c'est ce qu'on espère de convaincre la Ville de Montréal de maintenir les organismes dans leur territoire et de permettre de continuer à avoir cette approche-là de développement de communauté.
Et donc, dans ce contexte économique et politique, qu'est-ce que vous entrevoyez comme perspective d'avenir pour les CEDEC à Montréal? Je sais que vous l'avez touché dans certains éléments de réponse, mais si vous aviez à tourner votre regard vers l'avenir, malgré tout ce qui s'en vient et toute cette transition-là qui peut être difficile?
Bien, nous, on considère que les CEDEC ont encore un rôle important à jouer comme partenaire des arrondissements, des villes, comme, comment je dirais ça, comme catalyseur de la société civile dans leur communauté pour résoudre des problématiques de milieu. Puis, évidemment, ça a passé depuis les 25-30 dernières années beaucoup par l'aide aux entreprises, par l'aide aux personnes sans emploi. Mais les CEDEC, c'est pas l'histoire d'un mandat, c'est un outil, un instrument de développement. Alors, on va travailler très fort dans les prochaines années, comme on le fait à d'autres occasions dans le passé, pour aller remplacer les subventions qu'on perd, aller en chercher d'autres. Il y a d'autres partenaires. À un moment donné, c'est le gouvernement du Québec qui diminue son aide. Ben, on se tourne vers le gouvernement fédéral, puis on finit par trouver une façon de combler. C'est sûr que dans le contexte politique actuel, c'est pas nécessairement plus facile au fédéral de ce temps-là.
Quoique, c'est une année d'élection.
C'est une année d'élection. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent changer. On travaille de très près, comme je le disais, avec nos arrondissements. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut continuer à faire, qu'on va vouloir continuer à faire, et on va s'adapter, finalement. Donc, moi, je crois profondément que les CEDEC sont des ressources inaliénables, oui, que les milieux se sont donnés, et que c'est pas des changements de politique ou de subvention d'un gouvernement qui va nous obliger à disparaître.
En effet. Merci beaucoup, M. Morissette. Je vous rappelle, chers auditeurs, chères auditrices, que nous étions en conversation avec M. Pierre Morissette, qui est directeur du Regroupement économique et social du Sud-Ouest. Une transition musicale avant la prochaine entrevue. C'est une nouvelle année à peine amorcée, je le disais, mais c'est aussi une année charnière où plusieurs intervenants auront à se pencher de nouveau sur les objectifs du millénaire formulés par l'UNESCO, un sujet que vous verrez circuler, entre autres, sous le titre « Objectif post-2015 », où il sera question des enjeux en matière d'éducation des adultes. Un rayonnement mondial, mais aussi une réalité tout à fait semblable ici, localement, pour nous guider dans cette réflexion sur les objectifs et approfondir ce sujet, apprivoiser les éléments. Nous accueillons Daniel Barry, agent de recherche à l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. Bonjour, M. Barry.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation d'Emmanuel à venir participer à l'émission. Déjà, ce serait intéressant de faire un peu un retour pour nous expliquer comment ces politiques internationales ont été définies au fil du temps, parce que ça a connu une évolution.
C'est un peu comme la Maison des Fous dans Astérix, ce bâtiment aux multiples pièces. De la même manière qu'au Québec, par exemple, à tous les 5, 6, 7 ans, le gouvernement va définir une politique en éducation ou sur d'autres sujets, la même chose se produit à l'international. C'est l'ONU sur l'ensemble des questions de société et l'UNESCO sur les questions d'éducation qui sont responsables de consulter les pays. nécessairement, c'est des processus complexes. Il y a plus d'une centaine de pays, donc ce travail-là se fait dans des instances, des regroupements, et à certains points de passage importants, c'est l'Assemblée générale de l'ONU et la Conférence générale de l'UNESCO, qui sont une genre d'Assemblée générale de gens qui représentent les pays. Donc, en éducation, il y a eu en 1990 l'Éducation pour tous, un grand document qui invitait les pays surtout à alphabétiser et donner une éducation de base à tout le monde, les jeunes en particulier, mais les adultes étaient mentionnés. Mm-hmm. Ce document-là devait se terminer en 2015. En 2000, les objectifs du millénaire touchaient à l'éducation, mais touchaient aussi la pauvreté, la santé des enfants, la santé maternelle, etc., des enjeux socio-économiques. Et ce document-là aussi devait guider les pays jusqu'en 2015. Donc, on voit qu'au niveau international, des grands documents adoptés par les pays viennent à échéance en 2015. Peut-être une petite précision, quand l'ONU et l'UNESCO adoptent des grandes déclarations, ce n'est pas des lois internationales non. qui obligent les pays de les mettre en œuvre.
Ça n'a pas de valeur contraignante.
Non, pas contraignante et à peine juridique. Mais quand les pays votent, selon les statuts de l'ONU et de l'UNESCO, votent ces documents-là, ils s'engagent. Mm-hmm. Ils s'engagent à une chose, à les mettre en œuvre dans les programmes et les lois nationales. Donc, leur importance, c'est après d'être un levier. Petit exemple, la semaine des adultes en formation avait été adoptée en 97 dans une grande déclaration de l'UNESCO. L'ICA a pu s'appuyer sur cette déclaration-là et relancer le gouvernement du Québec qui, par l'intermédiaire du Canada, l'avait adoptée. Et localement, donc les engagements globaux pris par le Québec et le Canada ont permis à l'ICA localement de dire, ben vous aviez voté cette chose-là, maintenant on vous demande de le faire. Donc, il y a une espèce d'embouteillage en 2015 où plusieurs grands documents internationaux viennent à échéance. Et l'UNESCO, selon sa manière de travailler, a amorcé depuis 2012 un grand processus de consultation qui va aboutir à l'automne prochain.
Oui. C'est bon. Déjà, les acteurs au cœur de cette réflexion-là, si on avait à les définir, vous l'avez fait un peu, là, mais juste pour nous aider à bien suivre.
Au-delà des pays, les représentations officielles des pays, il y a le Conseil international de l'éducation des adultes, qui est un peu comme l'ICA, mais à l'échelle planétaire, un réseau qui représente l'ensemble, qui réunit l'ensemble des organismes de la société civile en éducation des adultes et qui est divisé en grands territoires, Europe, Amérique du Nord, Asie, Afrique, Amérique latine. Et cet organisme là assure la représentation de la société civile à l'intérieur des processus de l'UNESCO. C'est les deux joueurs essentiels. Un peu comme au Québec, il y a l'État et la société civile qui chacun a ses structures de représentation. Il y a un miroir au niveau international et ça se joue principalement dans les grandes instances de l'UNESCO et dans des conférences qui sont faites à différents moments, dont une en éducation qui va avoir lieu en mai prochain, un forum mondial sur l'éducation de l'UNESCO, où les pays-là vont finaliser leurs propositions qui sera intégrée dans le nouveau grand document international qui va guider les pays pour 15 ans. Donc, il y a beaucoup d'échelles, il y a beaucoup de pièces dans cette maison-là, mais essentiellement, c'est la même chose qu'au niveau du Québec quand la société civile et l'État se rencontrent pour décider ensemble de grandes orientations. La même chose se produit, c'est juste plus compliqué, puis il y a beaucoup de monde, puis il y a des différences culturelles incroyables entre les différents continents, et l'éducation, c'est un droit universel, mais ça a des couleurs locales à l'infini, quasiment.
Oui, les réalités sont tellement différentes d'un endroit à l'autre, mais même ici au Québec, c'est pas homogène de toute façon.
D'une région à l'autre, c'est
oui,
tout à fait.
Oui, c'est ça. Donc, on comprend que cette consultation-là, depuis 2012, a connu diverses étapes que vous avez dessinées pour nous un peu. Quels sont les engagements des pays, mais plus particulièrement du Canada et du Québec à ce sujet?
De manière générale, ce qu'on voit dans le débat, c'est encore une fois, l'éducation des jeunes prend beaucoup de place. On pourrait dire que c'est normal, il faut, faut former les jeunes, il faut leur donner un premier diplôme, puis si on a le temps puis des ressources, on s'occupera des adultes. Et malheureusement, l'éducation des adultes a encore de la misère à trouver une place dans tous ces grands débats-là, malgré son importance, sa nécessité croissante. Donc ça, c'est de manière générale. J'ai pu voir un peu avant Noël, dans une rencontre de la Commission canadienne de l'UNESCO sur l'éducation, la position officielle du Canada. Et dans ce débat-là, le Canada ne parle absolument pas d'éducation des adultes, même pas de formation de la main-d'œuvre. Donc, ce défi-là à l'international qu'on voit de faire valoir et de défendre l'éducation des adultes, on le vit tout à fait au Canada. Il faut amener le gouvernement fédéral à parler d'éducation des adultes. Et on voit aussi au Québec que l'éducation des adultes a tout le temps de la misère à se placer. Pourtant, au quotidien, c'est une évidence que les gens doivent se former comme travailleurs, comme parents, comme citoyens, dans toutes les facettes de notre vie quotidienne. Il faut en savoir plus pour pouvoir prendre notre place et s'épanouir. Mais malgré ça, et malgré une rhétorique qui dit souvent que c'est important, dans les faits, le gouvernement du Québec et surtout le gouvernement du Canada qui nous représente dans ce débat international-là ne parle même pas. On n'est même pas à s'opposer à leur manière d'en parler. On est juste à souhaiter qu'ils en parlent d'abord et avant tout. Et moi, ça me fait remarquer que malheureusement, le Québec et le Canada sont en phase avec le débat international, mais dans sa dimension négative, par le fait qu'on n'en parle pas, ou très peu, ou à peine, ou quand on en parle, c'est limité à l'alphabétisation, comme la vieille idée des années 50 de l'éducation des adultes comme école de deuxième chance. On a dépassé ça complètement. On est au 21e siècle. Et maintenant, les connaissances sont les instruments quotidiens des gens. Et dans le débat international, comme dans le débat au Canada, comme dans le débat au Québec, on est en phase avec ça. Moi, ça m'a réconforté parce que ça démontre que la tenue à Montréal de l'Assemblée mondiale du Conseil international sur l'éducation des adultes est tout à fait pertinente et on n'est peut-être pas dans des situations difficiles comme certains pays du Sud, mais ici aussi au Nord, il faut se battre pour quelque chose aussi évident que l'éducation des adultes soit dans les politiques et aussi de faire en sorte que le droit à l'éducation soit compris comme pas juste le droit des jeunes à l'éducation, mais le droit universel de tout le monde à pouvoir acquérir les connaissances et les compétences qui permettent aux gens de vivre leur vie correctement.
Qu'est-ce qui expliquerait ce manque de sensibilisation ou de réceptivité, en tout cas, à ces enjeux-là?
Ma petite analyse d'expert, c'est deux idées. Un, dans un contexte de budget limité, on se dit on va aller à l'essentiel, et l'essentiel, c'est les jeunes. On verra après pour les adultes. Deux, l'éducation des adultes est un marché privé. Mmh. On veut le laisser privé. Mmh. OK, financer l'alphabétisation, c'est un peu finir la job qu'on n'a pas fini chez les jeunes. Mais pour tout ce qu'il reste, que les entreprises s'occupent de financer leur monde, que les gens qui veulent être des citoyens s'occupent d'aller chercher les connaissances qu'ils ont besoin, qui se forment par eux-mêmes, par YouTube, par d'autres, etc. Et vu que c'est vu comme privé, des fois, pour certains pays, c'est même pas entendu dans leur tête que le droit universel à l'éducation inclut les adultes. Pour eux, c'est de donner un premier diplôme à tous les jeunes. Puis dans certains pays, leur permettre de finir le primaire, hein, et même pas au secondaire. Oui. Fait que je crois que des budgets limités qui visent à financer l'essentiel, donc les jeunes dans leur compréhension, et de garder l'éducation des adultes comme un marché privé, c'est selon moi les deux trames de fond qui font que l'éducation des adultes, on essaie de presque pas en parler, de laisser au débat public, pas au débat des politiques, et quand on en parle, de dire « bon, ça va se limiter à l'alpha ».
Est-ce que quand même, à travers ce constat-là, qui est assez dur, mais parce que vous êtes réaliste là-dedans, mais est-ce qu'il y a quand même des réalisations mesurables depuis que ça a commencé à faire l'objet de discussions, même si les engagements ne suivent pas?
Sur la question, et ça, c'est un constat, un bilan qui a été fait, les instruments que je disais tout à l'heure, d'éducation pour tous de 90 et des objectifs du millénaire, il y avait des engagements en éducation. Mais tous les suivis qui ont été faits n'ont pas mesuré les avancées en éducation parce que tout le monde s'est concentré sur les jeunes. Donc, on manque d'instruments efficaces. Il y a quand même quelques statistiques sur les taux de participation au non formel, donc au scolaire et à ce qui se passe en dehors du scolaire, le non formel. On voit que le Québec stagne, entre autres, en participation à la formation de la main-d'œuvre au Québec. Le Québec est la dernière province, la province qui a le plus bas taux. À une époque, à un moment donné où on entend le patronat dire qu'il faudrait couper la loi du 1 %
oui.
On est la pire province au Canada, même avec cet instrument-là. Il oui. faut le renforcer puis le repousser vers l'avant. Dans ces contextes-là, on peut voir. Mais l'autre côté, c'est qu'il y a une société civile hyper développée en éducation des adultes au Québec. Vous avez eu les gens des CLD avant moi et vous aurez l'éducation populaire après, où on voit que dans les milieux, il y a de l'éducation. Ces milieux-là ont besoin d'un coup de main. Ils ne demandent pas des milliards de dollars, ils demandent un coup de main financier pour pouvoir continuer ce travail-là et former les gens de manière très proche. Et c'est là, quelque part, que le grand thème de l'Assemblée mondiale, engagement global, action locale, prend tout son sens. Il faut, à l'international, placer l'éducation des adultes pour qu'après, on puisse utiliser ces déclarations-là au niveau local pour continuer de pousser et faire que les acteurs terrains se voient reconnus pleinement par leur gouvernement et reçoivent, pas quémander des subventions. C'est nos impôts, c'est des fonds publics, ça appartient à la population. L'impôt et les subventions, c'est pas une machine distributrice. On l'a, cet argent-là, il est là pour les gens et pour les organismes qui aident les gens. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre. C'est un peu le bout d'espoir dans mon jugement réaliste, là, à force... Je vous disais un petit peu à la blague en pré-entrevue qu'on est peut-être 4-5 personnes au Canada qui creusent ces débats-là. Notre rôle, c'est d'en parler. Et c'est pour ça que l'ICA existe, de pouvoir se concentrer sur ces choses-là et alimenter les réseaux, les alimenter sur ce qui se passe pas, les défis, sonner l'alarme. L'Assemblée mondiale s'inscrit là-dedans. On va pouvoir permettre aux gens du Québec de participer à ce débat-là. Mais aussi, le débat de politique d'austérité est un exemple au niveau du Québec d'une chose qui se passe à l'international. On coupe, on ne parle pas d'éducation des adultes en coupant, et ça a des effets catastrophiques sur les infrastructures réelles qui aident les gens quasiment dans leur cuisine à se former. Et vous allez voir que l'éducation populaire, quand je dis quasiment dans leur cuisine, c'est littéralement ça.
Oui. Bien, on peut que souhaiter alors que l'écoute soit davantage affirmée en 2015, et c'est sûr qu'on peut compter sur le travail de l'ICEA à ce sujet. Alors, merci beaucoup, Monsieur Daniel Barry. Bienvenue. Agent de recherche à l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, qui est venu, j'espère, vous éclairer un peu, chers auditeurs et auditrices, à comprendre mieux ces enjeux-là. On passe aux publicités et on vient ensuite en reportage.
Vous écoutez CIBL 101.5 Montréal.
Nous avons à vous offrir un grand reportage très intéressant que notre collègue Guillaume Touzelbonde a préparé pour vous. Je vous explique un peu de quoi il s'agit. Déjà, pour une mise en contexte, les 6 centres d'éducation populaire de Montréal sont en situation plus que précaire. Vous remarquez que c'est souvent le thème quand il s'agit d'éducation. Leur bail avec la CSDM se termine fin mai et n'est pas pour le moment renouvelé. Le ministre Bolduc s'est engagé, mais rien n'est signé, rien n'est à long terme. Le réseau Intercept, qui regroupe ces 6 centres, a donc commandé une étude au chercheur Paul Bélanger afin de démontrer la pertinence de ces institutions. Car si jamais elles devaient fermer leurs portes, ce sont des milliers de personnes annuellement qui se verraient privées de cet accès à l'éducation, un accès alternatif et à moindre coût, dont les retombées sont reconnues par l'UNESCO. On pourra passer à comprendre mieux ça en écoutant ce reportage que nous a préparé Guillaume Toussaint. À l'instant.
On va travailler à peu près 90 000 heures dans nos vies, ce qui est très important, évidemment. Mais on va aussi avoir 220 000 heures de temps libre. Dans ce temps libre-là, on a toutes sortes de rôles extrêmement importants et il faut qu'on se forme pour ça. Puis en plus, le droit à vivre intellectuellement, le droit à poursuivre nos curiosités, c'est très important et pour la santé mentale et pour la santé physique. De permettre aux gens d'être en santé intellectuellement, c'est une rentabilité folle pour la société. Malheureusement, au Québec, tout ça a été coupé lors de la crise du pétrole du début des années 80. Mais avant, au Québec, on avait 300 000 personnes dans nos commissions scolaires, dans nos centres d'éducation des adultes qui suivaient des cours d'éducation populaire. Et les vestiges, c'est les 6 centres de Montréal.
Comme le mentionnait Paul Bélanger, entre autres ex-directeur de l'Institut canadien d'éducation des adultes et de l'Institut de l'UNESCO pour l'éducation, ne reste plus que 6 centres d'éducation populaire à Montréal, dont le Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles, son coordonnateur, Donald Nollet.
Tout le monde a le droit d'apprendre et on pense et finalement qu'on offre un service à des gens que personne d'autre ailleurs va offrir. Ici, à Pointe-Saint-Charles, ça s'adresse particulièrement à des personnes qui sont isolées ou marginalisées, des personnes appauvries. En d'autres mots, les gens qui fréquentent le Carrefour, ils n'iraient pas s'inscrire là, dans un cours formel ailleurs.
Nouveaux arrivants, retraités et ex-décrocheurs fréquentent ces lieux conviviaux et non conventionnels qui permettent de se raccrocher à l'éducation à moindre coût. Paul Bélanger.
Tu sais, moi, si j'étais à l'école, puis j'ai une expérience négative à l'école, puis j'ai 40 ans, c'est pas simple pour moi de revenir participer à une formation. Donc, tout le travail de ces centres-là, autre que l'éducation structurée, qui est toute une série d'activités, une clinique juridique, une clinique d'impôts, des bingos, des fêtes, toutes sortes de rencontres, ça permet de créer une image de ces centres-là. On est chez nous dans ce centre-là. on est à l'aise et donc on n'est pas gêné de participer à des formations.
La programmation des différents centres d'éducation populaire est très variée, choisie par ses membres et adaptée aux besoins et réalités propres aux quartiers qu'ils desservent. La directrice du comité social Centre-Sud, Isabelle Aubin.
On a un milieu de vie. On a tout ce qui est spécifique au quartier, qui est c'est un quartier de passage, itinérance, au cœur du village gay, toxicomanie aussi beaucoup. Donc, on fait de l'intervention de crise, l'intervention de première ligne. Le but du jeu, c'est de partir des besoins exprimés. Donc, c'est pour et par le monde. Et les besoins exprimés dans la population, bah, c'est des besoins en santé, des besoins alimentation, sociale, beaucoup briser l'isolement, briser la solitude, se créer des réseaux, etc. Mmh. Et aussi des besoins en culture, art, artisanat, etc.
Alphabétisation, informatique, alimentation, santé préventive, artisanat. Plusieurs milliers de personnes bénéficient chaque année des activités et services des 6 centres d'éducation populaire de Montréal. Ces ressources sont utiles et complémentaires, en ressortent des citoyens plus actifs, plus impliqués, mais cela n'empêche pas ces institutions d'être en situation plus que précaire.
Ça a clairement un impact qui est démontré, qui est utile, qui a d'ailleurs jamais été remis en cause par aucun des gouvernements. C'est déjà ça, mais ça suffit pas à payer son loyer et à vivre.
En effet, le bail de chacun des centres avec la CSDM se termine à la fin mai. Il ne sera pour le moment pas renouvelé et d'autres subventions ont déjà été coupées.
On est tous logés dans des bâtisses excédentaires de la CSDM et on était logés, chauffés et éclairés gratuitement. Ce qui était un gros soutien de la part de la commission scolaire qui nous a permis de développer nos activités, etc. Par contre, pour ce qui est du financement, on avait une petite subvention de la CSDM à la mission, donc pour la mission d'éducation populaire. Cette subvention, elle a déjà été coupée à l'heure actuelle. Donc, ça fait déjà 2 ans qu'elle est coupée.
Ce n'est pas que la commission scolaire ait changé son fusil d'épaule par rapport à la pertinence des centres d'éducation populaire, c'est qu'on l'a obligé à effectuer des coupures dans son budget. Donald Nollet.
Eux se font serrer la vis au niveau du budget par le gouvernement provincial. Alors là, ben c'est nous qui payons la facture, en d'autres mots.
La nouvelle n'est pas une surprise en soi. Ça fait 3 ans qu'on sait que les baux ne seront pas renouvelés. Cela n'empêche pas le coordonnateur du Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles de s'indigner et de la décision rendue et de l'inaction des différents gouvernements.
Le ministère de l'Éducation, depuis 2002, ne reconnaît plus l'éducation populaire comme faisant partie de ses priorités. Pour moi, ça, c'est une aberration. Comment qu'on peut penser que le ministère de l'Éducation ne finance pas l'éducation? C'est l'accès à l'éducation. Quand on a appris qu'on s'était fait couper par la commission scolaire, on s'est tout de suite tourné vers le ministère de l'Éducation parce qu'on est convaincu que notre mission doit être financée par des fonds publics.
Après un déplacement à Québec et une manifestation devant l'Assemblée nationale, Donald Nollet et Isabelle Aubin ont pu rencontrer le ministre de l'Éducation, Yves Bolduc. On a apprécié l'ouverture et l'engagement du ministre, mais ce n'est pas suffisant aux yeux d'Isabelle Aubin.
Le 4 décembre, le comité social et le Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles, on est monté avec un bus avec des participants. On a réussi à rencontrer le ministre Bolduc, qui s'est voulu rassurant, nous a dit qu'il travaillait sur une solution temporaire, financée de manière dégressive sur 3 ans. Donc déjà là, oups, premier finalement indicateur que ça va pas si bien que ça, c'est le dégressif de l'affaire. Et le temporaire. Temporaire pour aller où?
C'est dans cette foulée que le réseau Intercept, qui regroupe les 6 centres d'éducation populaire de Montréal, a demandé à Paul Bélanger et son équipe de réaliser une étude sur la pertinence des centres. Les principales conclusions.
On a interviewé les responsables, on a interviewé la population des quartiers pour voir comment ils voyaient cela, puis on a décrit les activités qui continuaient de se développer d'année en année. Et donc, si une activité continue à se développer, c'est parce qu'elle répond à un besoin. Et la principale recommandation, c'est à court terme de régler les problèmes de survie de ces six centres-là. D'abord, la réparation des bâtiments, parce que quatre de ces bâtiments-là ont des problèmes importants de moisissures dans les murs qu'il faut corriger, etc. Et deuxièmement, de leur permettre d'avoir un revenu de base pour leur permettre de faire de l'activité. Et un revenu de base sur une période longue pour être capable de planifier sur plusieurs années, etc. Et non pas juste régler le problème pour l'année qui vient. Parce que c'est clair que ces centres-là, même une fois les bâtiments réparés, ne peuvent pas s'autofinancer. Ça va de soi.
Donc, aux dernières nouvelles, les centres seront rénovés, un besoin pressant, mais Donald Nollet attend impatiemment que ses engagements passent de promesses à des projets réalisés. Bref, il faudra le voir pour y croire.
La première chose qu'il nous a promis, c'est qu'il y aurait l'argent pour les rénovations et on aurait aussi le financement d'un prolongement de bail avec la CSDM pour 3 ans. Maintenant, une promesse, c'est une promesse, c'est pas un fait. Et on lui a demandé quand il y aurait quelque chose de concret, une signature, quelque chose par écrit, un engagement écrit. Et la réponse qu'on a eue le 19 décembre du bureau du ministre, c'était que ce serait vers le début février.
L'éducation populaire devrait être davantage valorisée, encouragée et supportée. Elle est rentable et apporte d'énormes dividendes à la société. D'autres pays, eux, l'ont compris. Paul Bélanger.
Dans la vie adulte, tout ce qui compte pour un certain nombre de décideurs, c'est le travail rémunéré. Mais en fait, le reste est aussi important, surtout qu'il y a un lien entre les deux. Si moi j'apprends les nouvelles technologies d'information dans un centre d'éducation populaire, ça va m'être aussi actif au travail et réciproquement. Et c'est important pour la santé de la population, c'est important pour l'efficacité de la participation sociale, mais surtout c'est important pour la qualité de vie. Mmh. C'est majeur. En Allemagne, il y a 10 millions de personnes par année qui participent à ce genre de formation. En Suède, il y a une personne sur deux qui à chaque année participe à ce qu'on appelle les cercles d'études. Et pourquoi? Parce que ça permet à la société de rendre l'État-providence participative efficace. Parce que ça développe la compétence citoyenne. Mais la compétence citoyenne, c'est aussi important que la compétence occupationnelle.
Le futur incertain des centres d'éducation populaire nuit en ce moment à leur bon fonctionnement, indique Donald Nollet.
Ça a des conséquences là, autant au niveau du développement et du fonctionnement et des services là, qu'on peut offrir là. Pendant tout ce temps-là, il y a beaucoup d'énergie dans les centres là, qui sont concentrés à défendre la survie des centres. Puis c'est sûr que pendant qu'on fait ça, on n'est pas là avec les gens à offrir des services.
La situation n'est pas évidente. Les équipes sont solidaires, mais il est urgent d'agir.
Le dossier, il stagne quand même à l'heure actuelle. On est quand même à 4 mois de la fermeture, avec, pour moi, pour ce qui est de mon centre, en tout cas, des équipes qui sont très solidaires. Pour l'instant, personne n'a quitté, mais où la tension commence à devenir vraiment palpable. On en est à sortir une programmation hiver-été qui va jusqu'à juillet, mais on ne sait pas si on sera là en juillet. Et avec des membres aussi qui sont de plus en plus dans l'incertitude, parce que des lieux comme ça dans le quartier, il n'y en a pas vraiment d'autres. On sert 200 repas par jour, ils vont aller où les gens? Et ils commencent à nous le demander sérieusement où ils vont aller.
Le réseau Intercept continuera à se battre car il croit en ce qu'il fait. Donald Nollet.
Malgré tout ça, comme on sait, ce qu'on défend, c'est un droit, le droit à l'éducation pour tous. Ben, c'est sûr qu'on se bat avec toute l'énergie et on espère bien qu'on aura de bonnes nouvelles en février.
Et finalement, Paul Bélanger nous invite à penser aux gens qui bénéficient des activités et services des centres d'éducation populaire et à ceux qui pourraient en bénéficier dans l'avenir.
C'est des milliers de personnes à Montréal dans les quartiers populaires qui vont être privées de formation. Et l'éducation populaire est majeure. Et majeure parce qu'elle répond à un besoin majeur, mais aussi parce qu'elle est la porte d'entrée pour beaucoup d'adultes loin de la culture scolaire vers les autres formations. On ne peut pas laisser tomber ça.
C'était Guillaume Touzelband pour CIBL Reçoit.
Tout ce qui naît commence à mourir. Tout ce que j'aime ne font que partir.
On tire déjà à sa fin. Il est 13h53. Vous êtes toujours à l'écoute de Pour un Québec apprenant, une émission qui est préparée en partenariat avec l'ICEA. Avant d'en arriver à la conclusion et les remerciements de cette émission, Emmanuel, puisque vous êtes encore en studio, je voulais juste revoir avec vous. Il y a donc une matière extrêmement riche à couvrir, qu'une heure suffit à peine. Là, les choix qu'il faut faire à chaque mois sont sans doute difficiles. Mais est-ce que je peux vous demander, mais vraiment spontanément, là, de me donner un peu ou m'énoncer un peu des souhaits que vous faites pour l'année 2015 plutôt que des résolutions, s'il y avait quelque chose qui... Je sais qu'il y a plein d'objectifs qui vous tiennent à cœur.
Je dirais peut-être premièrement qu'effectivement l'éducation des adultes, comme disait mon collègue Daniel, oui, soit vraiment considérée comme un secteur à part entière dont il faut s'occuper et qui ne doit pas être laissé uniquement au privé ou alors à ceux ou de s'occuper que de ceux qui ont les plus grosses difficultés. Je pense que tout le monde a le droit effectivement à une éducation. On est dans une société en plus vieillissante, donc on sait parfaitement qu'on va changer de métier à plusieurs reprises, oui, que les technologies évoluent, donc il faut aussi se former continuellement, donc je comprends pas qu'il n'y ait pas plus d'engagement public à cet égard. Je dirais que le deuxième souhait que je fais, c'est pour les apprenants adultes qui reviennent justement aux études, parce qu'on ne mesure pas à quel point, effectivement, c'est un investissement énorme pour ces personnes-là. Celles qui traversent tous les obstacles, à la fin, disent tout le temps qu'ils sont très heureux, et ils deviennent d'ailleurs des porte-parole formidables pour tous ceux qui cherchent à s'engager ou qui hésitent ou qui sont et puis qui éprouvent des difficultés. Donc j'aimerais aussi qu'on prenne en considération la situation de ces personnes-là et qu'on puisse trouver des moyens de les aider pour y arriver. Parce que c'est pas vrai qu'on veut avoir une population sous-instruite et qui n'a pas accès aux connaissances.
Oui. Peut-être pour que les auditeurs qui ne seraient pas déjà très familiers avec l'ICEA, peut-être ce serait intéressant de rappeler, comme on amorce une nouvelle année, même si c'est pas le début de la saison de partenariat avec vous, un peu redire qu'est-ce que l'ICEA?
L'ICEA, qui a été fondée en 1946, je pense, ou 48, je me souviens pas. Il y a toute une histoire derrière, et ça résonne. D'être, c'est effectivement la promotion du droit d'apprendre pour tout le monde, et à n'importe quel moment de sa vie. Et à cet égard, on regroupe sur notre CA, on a des gens qui proviennent aussi bien des établissements d'enseignement soutenus par l'État que des groupes communautaires, que des syndicats, que des centres d'éducation populaire. Donc vraiment des gens qui sont sur le terrain tous les jours auprès de tous les adultes apprenants.
Oui, parfait. Bien, je pense que ça aide à comprendre un peu plus votre rôle. D'ailleurs, je le mentionne avant de faire les remerciements, que non seulement vous trouverez toutes les émissions produites en balado-diffusion sur le site de CIBL, donc cibl1015.com, mais il y a aussi, et ça vaut la peine d'aller y jeter un coup d'œil parce qu'il se passe pas mal de choses, sur le site de l'ICEA qui est icea.qc.ca, où vous placez, enfin, vous avez aussi une page Facebook qui est bien alimentée, et sur le site même, le site web même de l'ICEA, il y a beaucoup d'informations si nos auditeurs et nos auditrices veulent aller apprivoiser un peu plus.
Ah, il n'y a pas de problème.
Les enjeux.
On a des nouvelles chaque semaine.
C'est ça.
Puis on a des nouvelles aussi du centre, du CDEACF, c'est-à-dire du centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine aussi qui relaie beaucoup d'informations à cet égard.
Oui, et c'est comme ça qu'on arrive à la conclusion de l'émission. Je vous rappelle que la prochaine émission, c'est le 11 février. Alors, cette émission, je le rappelle, pour un Québec apprenant, dans le cadre de CIBL reçoit, est produite par CIBL, mais en collaboration avec l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. Et je veux remercier rapidement à la mise en onde aujourd'hui Carlo Bellomo, Emmanuel Béguineau de l'ICEA. Merci encore de nous épauler dans la préparation de cette émission. Merci à Guillaume Touzelbonne pour le reportage sur les centres d'éducation populaire. Merci aux invités, Daniel Barry de l'ICEA et Pierre Morissette de Réseau. C'était Guylaine Lheureux à l'animation et réalisation de cette édition. Bonne journée à notre antenne. C'est 100% Franco qui vous accompagne dans un instant.